Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Elliot Schoenfeld, originaire de banlieue parisienne, quitte sa classe à l'âge de 20 ans et prend une année sabbatique pour voyager dans le monde. Un voyage en Australie a changé sa vie. Il est tombé amoureux de la nature sauvage, du silence et des grands espaces. Quelques années plus tard, il a déjà traversé le désert du Gobi, l'Amazonie, l'Alaska et encore l'Himalaya. À chacune de ses expéditions, il est tout seul, en autonomie totale. Son but est notamment de se dépouiller du maximum d'affaires industrielles. Ses aventures, très suivies sur les réseaux sociaux, font aujourd'hui un carton. Elliot vit de sa passion en proposant des films sur des festivals comme celui du Grand Bivouac où je l'ai rencontré. Parle-moi un peu de ton itinéraire, ton parcours et ce qui fait que tu as mis un pied là-dedans dans ce domaine de l'aventure et du voyage.
Bah, j'ai eu 17 ans, mes 17 premières années de vie ont été d'une banalité assez affligeante et très très, très normale en fait. Donc j'étais à l'école, puis j'ai fait mon lycée ensuite en internat en Normandie. Et puis j'ai passé mon bac et donc je suis rentré dans une prépa maths sup parce que j'avais fait un bac S, donc ça semblait être la suite logique. Et j'ai abandonné cette prépa, donc c'était la première fois de ma vie que je faisais quelque chose qui n'était pas prévu pour le coup. Parce que j'étais fatigué d'être assis, c'est ce que je dis dans les interviews. Et quand j'ai envie d'être honnête, j'avoue en fait que c'est parce que j'étais super nul, j'avais des très mauvaises notes, donc ils m'auraient viré à la fin de l'année. Et donc après avoir arrêté les cours, moi j'ai travaillé un peu, j'ai mis des sous de côté, et puis il s'avère que ma sœur avait pris une année de césure avant de reprendre ses études. Donc j'ai décidé de faire comme ma sœur. Et je suis parti en Australie. Et c'est en Australie, sur une île qu'on appelle Fraser Island, que j'ai découvert la nature sauvage. Donc il y avait un sentier de randonnée qui traversait l'île du sud au nord et je l'ai fait. Et puis je pensais que j'allais trouver des campings, des épiceries, des gens. Et en fait, j'ai pas trouvé ni d'épicerie, ni de camping en fait. Et donc j'ai quand même continué à le faire. Je me suis dit que j'allais quand même le faire. Donc j'ai peu mangé. Mais j'ai surtout découvert la vie avec d'autres animaux, parce qu'il y avait plein d'animaux sur cette île, notamment des dingos, c'est des chiens sauvages qui sont endémiques à l'Australie, qui venaient me réveiller tous les matins. Et moi je courais après en caleçon pour les prendre en photo à 6h. Et voilà, donc ça a été une expérience, ma première expérience quoi, seule dans la nature, et ça a bouleversé le reste de ma vie, puisque depuis ce moment-là j'ai passé une grande partie de mes journées dans la nature sauvage. Et voilà, donc cette découverte de la solitude, de la lenteur, de l'espace, du fait d'être autonome en fait, de devoir s'occuper de soi-même pendant ces quelques jours où j'étais sur cette île, c'est là qu'a germé en tout cas cette graine de l'expédition, de l'aventure, de tout ce dont on veut l'appeler.
Alors Fraser Island, c'est une île qui est sur la côte est, pas trop loin de Brisbane, où effectivement pas mal de gens vont faire des trips en gros pick-up, où tu peux louer un 4x4, traverser sur un petit bateau, et puis c'est parti pour un road trip sur cette île absolument sublime aux plages idylliques. Toi, tu as fait le choix de le faire à pied. Pourquoi ? C'était vraiment une volonté de sortir de ce circuit de masse de tourisme et de faire un truc un petit peu unique ? Ou qu'est-ce qui t'a animé ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire les choses différemment de la plupart des voyageurs que tu as pu rencontrer en Australie ?
Déjà c'est quand même une raison financière hein. En premier, c'est que moi j'avais pas les sous pour faire le truc en 4x4 et je sais pas, ça m'intéressait moi quand même d'aller voir un peu dans la forêt. Je me suis dit que je verrais peut-être des choses différentes que sur la plage, parce qu'il y a beaucoup de plages en Australie quoi. Et donc voilà, il y a pas vraiment de raison décisive quoi. C'était un peu au hasard aussi quoi. J'avais regardé ça dans un guide et ça m'avait peut-être donné envie d'aller voir la forêt à l'intérieur. Parce qu'à ce qui a suivi après cette expérience, quoi. Et en vrai, cette expérience, c'est un peu ridicule, hein. Je veux dire, c'est assez facile comme marche, etc. Le seul truc, c'est que j'avais pas la nourriture nécessaire, mais j'étais jamais à plus d'un jour de marche de quelqu'un, quoi, ou même quelques heures. Donc c'était pas du tout quelque chose d'incroyable. Mais ce qui a été incroyable, c'était le changement, quoi, de là où j'avais vécu, à savoir la ville, l'urbanité, les 19 années précédentes. Et c'était les premiers pas que je faisais vraiment seul dans la nature. Et, et voilà, j'ai du mal à ça. Je pense que c'est un hasard, quoi. Si j'ai vu ça dans un guide, je me suis dit, bon, bah, allez, j'ai rien à faire là cette semaine, je vais essayer d'aller voir cette forêt. Et puis ça s'est passé.
Tu dis que tu as grandi dans l'urbanité, donc dans la région parisienne ou à Paris même, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te libérer des codes du connu pour aller vers l'inconnu, pour aller vers le sauvage?
Moi, quand je suis parti en Australie, j'attendais absolument rien de ce voyage. Je ne savais pas du tout ce que j'allais y trouver ou ce qui même j'allais y chercher. Simplement, je savais que, enfin, j'avais un malaise en tout cas et je commençais à réaliser que je ne trouvais pas beaucoup de sens à la vie, à ce que je voyais autour de moi quand j'étais en prépa en tout cas. C'est pour ça que j'ai quitté. Et je pense que le départ, c'était davantage je partais davantage pour fuir quelque chose que pour en trouver une autre lors de mon premier voyage. Et lorsque j'ai découvert la nature sauvage, à partir de ce moment-là, maintenant, je partais plus seulement pour fuir un endroit, mais surtout aussi pour en retrouver un autre. Parce que justement, dans cette petite semaine sur Fraser Island, j'ai découvert, j'ai commencé à trouver un sens en fait. Au milieu de la nature sauvage, j'ai découvert la joie aussi, le bonheur d'être dans cet endroit-là, de voir des choses autres que moi-même. Et de les côtoyer, à savoir d'autres animaux, et ça m'a fort plu, ouais.
Cette histoire de joie, j'ai trouvé la joie, ça veut dire que dans le milieu dans lequel tu habitais, dans lequel tu étais habitué à évoluer, tu n'avais pas ce côté joyeux. Parle-moi de cette notion de joie, qu'est-ce que c'est que pour toi la joie, comment est-ce que tu la trouves? Parce qu'il y a aussi cette notion de seul, de danger, tu parles d'araignée, de dingo, d'inconfort aussi, donc tu arrives à trouver la joie dans des situations qui est à la base, ou en tout cas on pourrait croire, la joie n'y est pas.
Ce qui crée de la joie en moi, en tout cas quand j'étais dans cet endroit-là, c'était déjà de voir quelque chose, de découvrir un peu le beau, quoi, de voir quelque chose de beau. Et moi je trouve que la nature c'est la chose la plus belle que j'ai vue sur cette planète, bien plus belle que tout ce qu'on produit en la détruisant, et donc ça m'a créé un sentiment de joie assez intense. Et surtout, en fait, même si certes il y a eu la faim, peut-être qu'il y avait des fois l'inquiétude, mais toutes ces choses-là, en fait, ça m'a fait me sentir vivant. Et même par exemple avoir faim, c'est quelque chose que je connaissais pas, quoi, parce que c'est pas la même chose d'avoir faim parce que t'as pas mangé pendant plusieurs jours, et avoir faim parce que il est 4 heures et que tu passes devant une boulangerie, quoi. Pour le coup là, j'avais vraiment découvert ce qu'était la faim, ce qu'était l'effort. J'ai découvert aussi une certaine indépendance à savoir me débrouiller tout seul pendant ces plusieurs jours, qui m'a fait découvrir aussi une liberté peut-être que j'avais pas touchée jusqu'à présent.
Donc tu rentres en France après l'Australie. Est-ce que tu avais déjà cette notion de filmer ce que tu vivais à ce moment-là, ou c'est venu plus tard?
Non, en Australie je prenais des photos, j'écrivais un peu. En fait à mon retour, je me suis pas du tout dit c'est bon, je vais devenir explorateur. Ça a mis bien plus de temps que ça à me dire je vais faire des films, je vais vraiment écrire des livres pour essayer d'en faire mon métier en fait. Après l'Australie, moi je suis revenu à Paris, et très vite en fait le même malaise, la même volonté de partir a surgi, et donc je suis reparti quelques mois après mon retour au Canada, où je suis resté pendant un an. Parce que avant de partir en Australie, moi j'ai travaillé en tant que handler dans un camp de chiens de traîneau dans le Vercors. Handler, c'est celui qui s'occupe des chiens, qui ramasse leur merde, qui les soigne, qui leur donne à manger, qui les caresse. Et donc j'avais un copain, moi, qui avait repris un camp de chiens de traîneau tout au nord du Québec. C'est même pas un village, c'était un camp, et c'était à 2 heures du premier village en motoneige. Donc c'était quand même très reculé. On était au milieu de la forêt, au bord d'un lac qui s'appelle le lac Côté. Et donc je suis arrivé en hiver là-bas, et j'étais handler au début, donc je m'occupais des chiens, et puis en fait j'ai fini par devenir musher, donc guide de chiens de traîneau. Et j'ai passé un an donc dans la forêt québécoise avec, on avait, je sais pas, une 80 chiens à peu près. C'est un endroit où, je veux dire, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de chauffage. Donc moi, tous les matins, je prenais les chiens avec le traîneau, je descendais sur le lac, je remplissais des bidons, peut-être 100 litres d'eau. On remontait, comme ça on avait la dose pour la journée. On se chauffait au poêle avec le bois qu'on coupait. On prenait des douches dans un sauna qu'on avait construit en bois juste en face du lac. Et donc c'était une vie certes rude, parce qu'il y avait des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 40 degrés. Mais je pense que c'est une des années les plus heureuses de ma vie, quoi, parce que c'est un endroit. C'est un endroit qui vous éclate à la gueule, quoi. Ouais, c'est très pur, quoi. C'est très pur. Il y a un sentiment, quand tout est recouvert de neige et qu'on est au milieu de la forêt, il y a cette impression d'authenticité, ou d'être vraiment dans le réel, et dans un réel qui est vraiment désirable. Et donc voilà, je suis rentré après un an en France en me disant que bon, j'avais pas pris une année de césure mais deux, et que maintenant il était temps de revenir au réel. C'est un autre réel du coup, ce que je croyais être pour le réel, à la vie normale et sortir de cette parenthèse. Et en gros, j'avais été assez heureux pour, comme ça quoi. Il était temps de revenir, de reprendre des études. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu et j'ai commencé une licence de philo à la Sorbonne. Mais c'est dès les premiers jours en fait sur les bancs de la fac, en fait, j'ai compris que j'ai eu cette conviction qui a commencé à germer, qui s'est jamais arrêtée, à savoir que ma place n'était pas ici, notre place n'était pas ici, et surtout que si on se réconciliait pas avec la nature, le destin, l'avenir serait assez morbide, quoi. Et donc, à partir de ce moment, et surtout, j'avais un désir, moi, et très fort de passer le plus de temps possible dans les lieux que j'avais arpenté ces deux dernières années en Australie et au Canada. Donc c'est dès les premiers jours sur les bancs de la fac que je me suis dit que j'allais devenir explorateur. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à organiser je regardais des Google Earth toute la nuit pour voir les endroits les plus sauvages du monde. Je regardais des cartes, je regardais des photos. Mais en tout cas, j'ai commencé à planifier des expéditions, quoi, des rêves qui allaient finir par se réaliser. Mais c'est là que, par exemple, le projet de l'Himalaya est né, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai voulu aller en Islande, et puis petit à petit l'idée de la Mongolie aussi est venue. Mais en tout cas, c'est de manière évolutive, j'avais plein de rêves qui arrivaient par des biais très différents, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu vas nous raconter ce projet de l'Himalaya, mais je veux quand même te demander ce que c'est que pour toi un explorateur. Quelle est ta définition? Tu as choisi d'être explorateur.
Mais un explorateur, si tu regardes dans Larousse, en gros, c'est un gars qui se rend dans une région lointaine, peu ou pas connue. Donc ça semble un peu anachronique ou même désuet comme terme aujourd'hui, parce que les régions lointaines, est-ce qu'il y a encore des régions lointaines quand tout est à peu près accessible à quelques heures d'avion? Et est-ce qu'il y a encore des régions peu ou mal connues quand la civilisation maintenant est présente sur 85% de la surface planétaire? Donc c'est des questions qui se posent carrément. Moi, comment je vois pourquoi je me dis explorateur, c'est que j'ai l'impression que l'homme moderne s'est tellement coupé de la nature qu'il la connaît plus, quoi. Et le fait de vouloir faire la démarche de s'y rendre dans les endroits où la vie est encore permise, où la nature est encore présente, c'est une façon de réapprendre sa place sur Terre, quoi. Et donc de découvrir quelque chose qui est à l'exact opposé, à l'extrême opposé de la manière dont vivent aujourd'hui une grande majorité d'humains sur la Terre. Et donc peut-être que le terme le plus exact, ce serait réexplorateur, mais c'est moins joli. Réexplorateur dans le sens où on a peut-être déjà exploré ces endroits-là, même si s'il y a encore des endroits qui sont très peu connus ou pas connus. Il y a encore des tribus isolées en Amazonie qu'on n'a jamais approchées. Il y a encore toutes sortes de bêtes, petites ou grandes, qu'on ne connaît pas. Donc il y a encore plein de mystères, plein de secrets, et tant mieux, et il y en aura toujours. Et c'est ça, enfin toujours, tant qu'il y aura des choses vivantes sur Terre. C'est ça qui fait pour moi la beauté du monde. Mais c'est plus la découverte d'un continent comme ça l'était il y a quelques siècles ou quelques milliers d'années. Mais du coup, quand je dis réexplorateur, c'est qu'on a oublié en fait. On a oublié déjà qu'on faisait partie de la nature, on a oublié que le vivant était sur la planète, on a oublié en fait, on a oublié un peu comment était l'endroit sur lequel on était né. Et donc cette tentative d'aller dans la nature sauvage, on pourrait croire que c'est un genre de nomadisme, toujours être en mouvement, etc. Mais en réalité, j'essaye de redevenir sédentaire, de revenir sur Terre. Et d'aller à la... Je pars pour aller découvrir ce qui reste, ce qui est toujours là. Et donc pour moi, l'explorateur, c'est ça, quoi. C'est
se reconnecter à un essentiel, à ce monde vivant dont tu parles.
Redécouvrir quelque chose qu'on a perdu de vue.
Mais comment tu expliques que l'homme se soit éloigné à ce point-là du vivant, des lois de la nature? Parce que les modes de vie dans lesquels on est, ce qu'on a créé, sont liés à l'évolution de l'humanité. Mais pourquoi est-ce qu'on s'est déconnecté? Pourquoi est-ce que c'est urgent de se reconnecter?
Moi, je pense pas que... Parce que souvent, quand on parle, par exemple, des problèmes, les problèmes écologiques qu'on connaît, souvent, on peut avoir un peu cette pensée généralisante qui dit que c'est l'homme de manière intrinsèque, de manière consubstantielle, qui est destructeur de la nature, et que c'est dans sa nature en fait d'être destructeur de la nature. Et moi, en fait, en allant dans ces endroits-là, j'ai rencontré des gens qui vivaient en harmonie avec la nature. Et c'était d'ailleurs la première fois que j'ai rencontré des gens qui vivaient de cette manière-là, à savoir des nomades, à savoir des chasseurs-cueilleurs, à savoir des Amérindiens que j'ai rencontrés en Amazonie. Et donc, c'était très important comme découverte pour moi, parce que ça signifiait que non, c'était pas de manière intrinsèque qu'il était destructeur de la nature, mais c'était... pour moi, en fait, j'ai découvert que c'était la civilisation qui avait rendu l'homme destructeur de la nature. Parce que ce que j'ai réalisé il y a quelques temps maintenant, c'est que au regard des chiffres qu'on voit, c'est-à-dire juste, on les connaît tous, et il y en a toujours des listes qui sont faites un peu partout, mais en gros, le fait de comprendre que 60% des espèces ont disparu en 40 ans, que 80% des espèces d'insectes ont disparu en Europe ces 30 dernières années, que 200 espèces disparaissent chaque jour. Pour moi, ça signifie quand même que, enfin, il y a une relation très logique, très évidente de cause à effet sur le fait que il me semble vraiment que la civilisation n'est pas compatible avec la vie sur Terre. Et donc la civilisation, elle est née de différentes manières, mais je pense que c'est un mode de vie qui se concentre sur la croissance de villes, qui se définit par une concentration très importante du pouvoir, et comme elle naît de la concentration de villes, elle va dépendre des ressources naturelles qui entourent cette ville. Et plus la ville est grande, et plus l'environnement où on devra piocher les ressources naturelles sera grande aussi. Et aujourd'hui, les villes sont tellement grandes que les alentours, en fait, c'est le monde entier. Et tout ça participe forcément à la destruction de la nature, et surtout, ça crée une sorte d'illusion, de bulle, je veux dire, il y a plein d'écoles philosophiques qui ont participé à ça. Je veux dire, la philosophie moderne, quand tu lis Descartes et quand tu vois qu'il... Vraiment, il y a une différence vraiment quasiment de nature, même la religion, il y a une différence très importante entre l'homme et le reste du vivant, entre le reste des animaux. Je pense que c'est toute une philosophie, toute une école de pensée qui a émergé, et tout aussi la technique, je pense aussi, la technique, la technologie qui nous a fait entrer encore de plus en plus dans cette illusion, et dans cette illusion qui est quand même très dangereuse.
Cette notion aussi de contrôle.
Oui, de contrôle, ouais, de contrôle de l'homme sur lui, de l'homme sur les autres vivants, de l'homme, ouais, de l'homme sur la nature en général, ouais. De l'homme sur lui-même aussi.
On pourrait presque parler d'une prise en étage du monde vivant par l'homme moderne actuel, où finalement cette déconnexion nous a tellement éloignés qu'on prend les autres espèces en captivité, en otage, quoi.
Mais moi, c'est ça, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose c'est ça qui est étrange, c'est qu'on a l'impression que la technique nous libère, nous rend plus libres, parce qu'elle nous permet de faire plus de choses, peut-être. Moi, j'ai quand même l'impression que ça fait tout à fait l'inverse, parce que on est complètement, l'homme moderne est complètement dépendant de tout. Je veux dire, il sait pas se nourrir lui-même. D'ailleurs, il peut même plus se nourrir lui-même, parce que quand tu vis en ville, tu peux pas te nourrir toi-même. Il sait pas, il dépend de tout un tas de personnes, de tout un tas de machines, de tout un tas de choses pour pouvoir vivre quotidiennement. En fait, je pense qu'il y a une différence. C'est pas être contre la technique en soi, parce que je veux dire, l'homme a toujours utilisé des outils, et d'ailleurs, c'est une de ses caractéristiques qui le différencie peut-être de beaucoup d'autres animaux, même si d'autres animaux en utilisent aussi. Mais je pense qu'il y a des techniques, en fait, qui peut-être agrandissent notre liberté ou notre capacité d'agir, et il y a d'autres techniques qui nous aliènent plus qu'autre chose. Et il y a un gars qui s'appelle Mumford Ivan Illich, qui fait la différence entre la technique autoritaire et les techniques démocratiques. Et en fait, les techniques autoritaires, ce serait par exemple ce même smartphone où en fait on n'a aucune, on ne sait pas comment ça fonctionne. Ça dépend de choses immenses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes à notre échelle. C'est-à-dire qu'il faut, il faut des mines de métaux rares, il faut des usines, il faut l'industrie du pétrole pour alimenter toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui est, c'est presque inimaginable tellement c'est immense comme organisation. Alors que par exemple, si tu prends un arc par exemple, ou une canne à pêche, ou des techniques simples en fait, ou faire du feu perfection, ou je sais pas, des outils pour une hache par exemple, une hache en pierre, c'est des techniques, je pense, plus démocratiques, parce que ça nous aide, donc c'est un prolongement de notre pouvoir, de notre liberté, et en même temps on est dépendant de personnes, ou de très peu de personnes, pour c'est pas un objet qui va pouvoir se retourner contre nous en fait.
Et c'est ces techniques simples que tu as cherché à te réapproprier dans ton voyage en Himalaya.
Ouais, carrément. Ouais, c'était. En fait, j'ai découvert l'autonomie moi en Mongolie avec les nomades, et ça m'a. Ouais, ça m'a. Ça a été déterminant quoi, comme découverte dans ma vie. Et depuis ce moment-là, j'ai voulu tendre un peu vers eux.
Cette notion d'autonomie, vas-y, reviens sur ce voyage en Mongolie. Et qu'est-ce que c'est que pour toi l'autonomie ?
Pour moi, ça se rapproche très fortement de la liberté, dans le sens où les nomades, quand ils sont dans leur yurte, ils ont besoin de personne, quoi. C'est-à-dire que, ils... et surtout, ils savent beaucoup de choses. Et c'est, moi, c'est cette curiosité et cette volonté d'apprentissage, moi, qui m'intéresse beaucoup quand je suis avec eux. Mais c'est, ils produisent leur nourriture eux-mêmes. Donc, ils ont des baies, ils ont des vaches, des yaks, des chèvres, des moutons. Et avec le lait, ils font du fromage, du beurre, de l'alcool même. Ils ont de la viande et puis ils font des cordes avec la crinière de leurs chevaux, des pulls avec la laine des moutons, ils isolent la yourte avec la même laine. Donc c'est des gens ouais qui sont certes dans une vie assez sobre, assez rude aussi, mais en même temps qui ont qui sont seuls maîtres de ce qu'ils souhaitent vivre. Enfin pas seuls maîtres, ils sont dépendants par exemple des conditions de la nature. En fait ils sont soumis qu'aux règles de la nature. Et moi je trouve ça plutôt sain d'être soumis qu'aux règles de la nature, parce que je les trouve plutôt bien faites en fait, les règles de la nature. Et donc cette capacité et cette connaissance qui leur permet de vivre cette liberté, moi ça m'a attiré énormément. Et en Alaska, l'expédition qui a suivi, j'ai découvert par moi-même l'autonomie alimentaire. Parce qu'il y a un moment où j'ai compris que mes provisions étaient trop faibles, et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve ma nourriture moi-même. Et donc j'ai appris à pêcher là-bas. J'ai cueilli des groseilles, des champignons, des mûres. Et ça a été, c'était super fort, parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau, parce que pour la première fois, j'avais plus besoin de revenir dans la civilisation pour ensuite repartir dans la nature sauvage. Mais si je le souhaitais, je pourrais rester bien plus longtemps dans la nature sauvage. Et j'ai voulu aller un peu plus loin l'année suivante, pendant mon voyage en Himalaya, où j'avais compris un peu la contradiction qu'il y avait dans mes expéditions, à savoir que j'allais dans les endroits les plus sauvages du monde en prétendant m'y intégrer, en prétendant m'y fondre, m'y adapter, mais que je ramenais la ville avec moi dans mon sac à dos. Et quand je dis ça, c'est des objets industriels comme je sais pas, un briquet, une tente, des pompes, le sac à dos lui-même que j'ai acheté dans un magasin et qui a fait 25 usines, il y a 18 matériaux différents dessus. Donc toutes ces choses-là quoi qui participent à la destruction de ces mêmes lieux où j'allais. Et donc de là est née l'idée de vouloir au fur et à mesure du voyage me déposséder de ces objets-là et de les remplacer par des alternatives naturelles. Et j'ai voulu le faire en Himalaya, ce projet, parce qu'il s'avère qu'il existe encore des tribus en Himalaya qui vivent de manière autonome, à savoir des nomades tibétains qui sont dans les montagnes du Ladakh. Et la dernière tribu de chasseurs-cueilleurs du Népal, qui s'appelle les Rotes, ça veut dire roi de la forêt. Et donc voilà, le but c'était d'aller les rencontrer, d'aller apprendre un peu auprès d'eux comment ils faisaient pour vivre, et d'essayer de m'en inspirer, de l'appliquer en fait, d'essayer de l'appliquer comme je pouvais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à la fin de l'expédition, par exemple à me séparer de mon sac, en le remplaçant par un autre sac, mais celui-ci tissé en bambou, en remplaçant mon duvet par un manteau que je m'étais fait en peau de chèvre, avec deux peaux de chèvre. J'ai remplacé la tente en dormant dans des grottes, en construisant des abris en pierre et en bois. Et surtout aussi, chose importante, en faisant du feu par friction pour la première fois de ma vie. Donc voilà, c'est une quête d'apprentissage que je continue à suivre et qui s'arrêtera jamais, j'imagine, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre pour savoir vivre et vivre pleinement dans la nature. Mais ouais, en tout cas, c'est un objectif dans lequel je trouve énormément de sens, que je pense qu'il sera même absolument nécessaire à un moment, quoi, de savoir revivre dans la nature. C'est des techniques, en fait, qui disparaissent à fur et à mesure que les peuples premiers disparaissent. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux vraiment sur Terre, de pouvoir continuer à faire vivre ces savoirs-là, de pas les oublier, parce qu'ils seront absolument nécessaires dans les années qui viennent, je pense. Ouais.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu as fait le choix de filmer tes voyages.
Oui, j'ai fait le choix de filmer. Au début, en fait, c'était. Moi, j'écrivais au début. Et je me suis dit, ça a été un truc très. primaire, quoi. C'est-à-dire, si je veux vivre de ce métier, d'être explorateur, enfin de cette passion, en tout cas, il faut que j'écrive des livres et que je fasse des films. Donc là, quand je suis parti pour ma première expédition en Mongolie, c'était la première fois que je tenais une caméra. Et en fait, c'est en le faisant que j'ai appris vraiment à aimer faire ça. Ouais, je pense que l'image, ça permet vraiment de montrer la beauté, peut-être de manière plus facile, en tout cas que par l'écriture, et plus abordable que par l'écriture. Et donc, ça peut avoir un impact super fort. Et puis, ça permet de raconter une histoire différemment aussi que dans un livre. Donc, moi, je me suis vu aimer vraiment faire des films dès la première fois en le faisant. Et ouais, donc c'est ça. À chaque expédition, je fais le film, donc je me filme tout seul. Il s'agit de mettre un trépied, de mettre la caméra dessus, de prendre un air détendu et de passer devant la caméra, et ensuite de revenir choper la caméra. Et puis j'écris un bouquin à chaque expédition pour parler de ce que j'y ai vu, de ce que j'y ai vécu, de ce que j'y ai compris, si j'ai compris des choses, et d'essayer de le transmettre aussi bien que possible, quoi.
Dans un de tes films, il y a une histoire d'ours. Tu nous la racontes?
Oui. Ben c'était le film, c'est Seul en Alaska, donc c'était mon expédition en Alaska que j'ai fait en 2016. Et moi, je suis parti en Alaska parce que l'année que j'avais passée dans le Grand Nord au Canada, quand j'étais plus jeune et quand j'étais dans le camp de Chantreno, j'avais jamais vu d'ours. Et donc j'étais très frustré. Et donc je savais que j'allais retourner dans le Grand Nord parce que c'est mon endroit préféré et parce que je voulais absolument voir les ours. Et donc j'ai pas été déçu pour le coup parce que j'en ai vu vraiment beaucoup. Il y a toute une partie du voyage où je voyais plus de grizzlies que d'hommes. Donc je crois que j'ai vu une quinzaine de grizzlies. Et ça s'est très bien passé. Hein. Il suffit de respecter quelques règles assez simples pour réduire les risques de confrontation de manière très importante. Donc voilà, ne pas foutre la bouffe dans sa tente quand on dort, ne pas dormir près des rivières, ne pas essayer de faire du bruit quand on est dans la forêt et qu'on voit que dalle pour pas les surprendre, ne pas se mettre entre les petits et la mère, ne pas courir si jamais il y a une confrontation. Enfin, toutes sortes de choses qui sont assez simples finalement. Et moi, je les ai pas du tout appliqués. Enfin, j'ai trahi une de ces règles d'or. Et donc, ce qui est arrivé, c'est-à-dire que il y a eu une embrouille avec un ours. Donc, c'était à la fin d'une journée où je marchais dans la forêt. C'était une végétation très dense, donc il y avait un sentiment d'enfermement qui était pas agréable. Et puis, j'étais épuisé par l'effort de la journée. Et à la fin de la journée, je suis tombé sur une rivière qui était bordée par une magnifique petite plage de sable. Et donc je me suis dit que voilà, c'était enfin un milieu où il y avait un peu d'espace, où je pouvais respirer, en plus la rivière était belle. Donc je me suis dit que j'allais planter ma tente là. Mais en descendant sur la plage, j'ai vu qu'il y avait une déco, et il y avait un genre de carrelage sur la sable, et c'était des pattes d'ours, des empreintes d'ours partout. Et parce que j'ai été idiot, et ben je me suis dit qu'il viendrait sûrement pas ce soir, quoi. Donc j'ai planté ma tente quand même. Et je faisais ma vaisselle tranquillement, et puis quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu ma tente, mais sur ma tente, il y avait un ours noir, qui était en train d'essayer de trouver le zip pour entrer dedans, mais comme il trouvait pas, il était en train de tout déchirer. Et là, il s'est passé quelque chose de très bizarre dans mon esprit, c'est-à-dire que j'ai pas eu peur, mais j'ai associé la survie de ma tente à ma propre survie. Et donc, dans ma tête, c'était impossible que cet ours continue à faire ce qu'il était en train de faire, et qu'il fallait que je l'arrête par tous les moyens. Donc, en fait, j'étais juste concentré à faire tout ce qui était possible pour qu'il se barre, quoi. Donc j'ai gueulé comme un fou, parce que devant un ours noir, et c'est pas du tout la même chose devant un grizzly, mais il faut lui faire croire il faut vraiment y aller, quoi. Il faut lui faire croire qu'on est plus fort que lui, qu'on n'a pas peur de lui. Donc quand on pèse 55 kilos et qu'on fait 1m76 comme moi, c'est pas évident, mais bon, il faut lever les bras, et si on a un sac, il faut le mettre comme ça, on a l'impression d'être plus gros et plus grand. Et donc ça a duré une demi-heure, donc il a essayé de venir vers moi peut-être 2-3 fois pour venir vers moi. Moi, j'avais une bombe à poivre. C'est ce que toute personne qui va dans le Grand Nord prend avec lui, s'il veut pas prendre une carabine. Et moi, je voulais pas prendre une carabine, donc j'ai pris une bombe à poivre. Et voilà, c'est un truc qu'il fait éternuer 5 minutes. Donc on faisait des allers-retours comme ça. Il allait vers moi en mode vénère. Je lui foutais un petit coup de pchit-pchit. Il retournait dans la forêt, éternuait 2-3 fois. Il revenait 5 minutes plus tard. Et puis on faisait des allers-retours comme ça. Voilà. Et puis au bout d'une demi-heure, je pense qu'il en a eu marre. Donc il est parti, mais bon, j'ai aucune colère contre cet ours, parce qu'en gros, il a réagi parfaitement normalement. Si vous rentrez chez vous un soir et que vous voyez dans votre salon une tente plantée, et que le mec qui sort de la tente commence à vous gueuler dessus parce que vous allez lui demander qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Donc Donc voilà, sans rancune. Et depuis, à partir de ce moment-là, bah, j'ai été moins débile. Et donc, je plantais ma tente pas sur au bord des rivières, mais dans des endroits où les ours avaient moins d'intérêt à aller, quoi. Donc pas à côté des poissons, dans des endroits où il n'y avait pas trop de myrtilles, surtout des endroits où il y avait de la roche, et un peu plus en hauteur. Et puis j'en ai vu plein par la suite, et j'ai jamais eu de problème avec un autre ours.
Elliot, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.